Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de Monsieur Bonhomme. Chapitre 73. La nuit de ce vendredi-là, car c'était le vendredi de la semaine des émeutes qu'Emma et Dolly furent délivrées grâce à l'aide empressée de Joe et d'Edward Chester, les troubles furent entièrement apaisés. L'ordre et la tranquillité furent rétablis dans la ville épouvantée. Mais en vérité, après ce qui s'était passé, personne ne pouvait dire si ce calme nouveau durerait longtemps ou si on n'était pas destiné à voir éclater tout à coup de nouveaux orages qui viendraient remplir les rues de Londres de sang et de ruines. Ceux qui s'étaient dérobés par la fuite au tumulte récent se tenaient encore à distance et bien des familles qui n'avaient pu jusque-là se procurer les moyens de fuir profitaient de ce moment de répit pour se retirer à la campagne. De Tyburn à Whitechapel, les boutiques étaient encore fermées et il ne se faisait guère d'affaires dans aucun des centres habituels du mouvement commercial. Cependant, malgré les prédictions sinistres des alarmistes, cette nombreuse classe de la société qui voit toujours si clair dans les événements les plus obscurs, la ville restait dans une tranquillité profonde, la force armée, composée de troupes considérables, distribuées sur tous les points les plus dangereux et postées dans tous les endroits principaux, tenait en échec les restes dispersés de l'émeute. On poursuivait avec une vigueur infatigable la recherche des perturbateurs, et s'il s'en trouvait encore parmi eux d'assez incorrigibles et d'assez téméraires pour avoir la fantaisie, après les terribles scènes des derniers jours, de se risquer dans les rues, ils étaient tellement abattus par ces mesures fermes et résolues, ils se dépêchaient de retourner s'ensevelir dans leur cachette, ne songeant plus qu'à leur propre salut. En un mot, l'émeute était en déroute. On avait tué à coups de fusil plus de 200 insurgés dans les rues. Il y en avait en outre 250 dans les hôpitaux avec des blessures graves. Là-dessus, peu de jours après, on comptait 70 ou 80 morts de plus. Il y en avait une centaine d'arrêtés, sans compter ceux qu'on arrêtait d'heure en heure. Quant à ceux qui avaient péri victimes de l'incendie ou de leurs propres excès, le nombre en était inconnu. Cependant, il est certain qu'il y avait beaucoup de ces misérables qui avaient trouvé une horrible sépulture dans la cendre brûlante des feux qu'ils avaient allumés, ou qui s'étant glissés dans des caves et des celliers, soit pour y boire en secret, soit pour y panser leurs blessures, ne revirent jamais le jour. Bien des semaines après que le foyer de l'incendie ne contenait plus qu'une cendre noire et froide, la bêche du fossoyeur, mise en réquisition, ne laissa point de doute à cet égard. Pendant les 4 grands jours de l'insurrection, 70 maisons particulières et 4 prisons considérables avaient été détruites. La perte totale des objets mobiliers, d'après l'estimation de ceux qui l'avaient subi, était de 150 000 livres sterling. À l'estimer au plus bas, d'après l'évaluation plus impartiale de personnes désintéressées, elle montait toujours bien à plus de 125 000 livres. Cette perte immense fut bientôt après couverte par une indemnité sur la fortune publique, en exécution d'un vote de la Chambre des communes, la somme ayant été prélevée sur les différents quartiers de Londres et sur le comté et le bourg de Southwark. Toutefois, Lord Mansfield et Lord Saville ne voulurent ni l'un ni l'autre recevoir d'indemnité d'aucun genre. La Chambre des communes, dans sa séance du mardi, avec ses portes fermées et bien gardées, avait émis une résolution à l'effet de procéder immédiatement après la fin des émeutes à l'examen des pétitions présentées par un grand nombre de sujets protestants de Sa Majesté et à leur prise en sérieuse considération. Pendant qu'on débattait cette question, M. Herbert, l'un des membres présents, se leva indigné et pria la Chambre de remarquer que Lord George Gordon était là sur son banc, au-dessous de la galerie, avec la cocarde bleue, signe de ralliement de la rébellion, attachée à son chapeau. Non seulement ceux qui siégeaient auprès de lui l'obligèrent de l'ôter, mais quand il s'offrit à aller dans les rues pacifier l'émeute, rien qu'avec la vague assurance que la Chambre était disposée à leur donner la satisfaction qu'ils voulaient, plusieurs membres se réunirent pour le retenir de force sur son banc. Bref, le désordre et la violence qui régnaient en vainqueur au dehors pénétrèrent aussi dans le Sénat, et là comme ailleurs, l'alarme et la terreur étaient à l'ordre du jour, et les formes régulières furent un moment oubliées. Le mardi, les deux chambres s'étaient ajournées au lundi suivant, déclarant impossible de continuer le cours de leurs délibérations avec la gravité et la liberté nécessaires tant qu'elles seraient entourées par la troupe armée. Mais à présent que les révoltés étaient dispersés, les citoyens furent assaillis par une autre crainte. En effet, en voyant les places publiques et leurs lieux ordinaires de réunion remplis de soldats autorisés à faire usage à discrétion de leurs fusils et de leurs sabres, ils commencèrent à prêter une oreille avide au bruit qui circulait de la proclamation d'une loi martiale et à des contes effrayants de prisonniers qu'on aurait vus pendus aux lanternes de Cheapside et de Fleet Street. Cette erreur ayant été promptement dissipée par une proclamation déclarant que tous les perturbateurs seraient jugés par une commission spéciale constituée conformément à la loi, on eut une autre alerte. Il se disait tout bas, d'un bout de la ville à l'autre, qu'on avait trouvé de l'argent français sur quelques insurgés et que ces troubles avaient été soudoyés par les puissances étrangères pour arriver au renversement et à la ruine de l'Angleterre. Cette sourde rumeur, entretenue par des placards anonymes semés avec profusion, quoique dénuée probablement de tout fondement, tenait sans doute à la découverte de quelques pièces de monnaie qui n'étaient point de fabrication anglaise, trouvées avec d'autres objets volés en fouillant les poches des rebelles ou sur les prisonniers arrêtés et les cadavres des victimes. Cela n'empêcha pas que ce bruit, une fois répandu, produisit une grande sensation et, au milieu de cette excitation générale, qui dispose les gens à saisir avidement toute nouvelle alarmante, il fut colporté avec une merveilleuse activité. Cependant, comme la tranquillité ne se démentit pas pendant toute la journée de vendredi, puis pendant toute la nuit, et qu'on ne fit plus de nouvelles découvertes, la confiance commença à renaître, et les plus timides, les plus découragés, recommencèrent à respirer. Rien que dans Thurtwark, il n'y eut pas moins de 3000 habitants qui se formèrent en garde privée pour faire dans les rues des patrouilles d'heure en heure. Les citoyens de Londres ne restèrent pas en arrière pour imiter ce bel exemple et, selon l'habitude des gens paisibles qui deviennent d'une audace incroyable quand le danger est passé, il était impossible de rien voir de plus intraitable et de plus hardi. Ils n'hésitaient pas à faire subir aux passants le plus robuste un interrogatoire sévère et menaient haut la main les petits commissionnaires, les bonnes et les apprentis qu'ils trouvaient sur leur chemin. Quand le jour s'obscurcit pour faire place au soir, à l'heure où les ténèbres commencèrent par se glisser dans les coins et recoins de la ville comme pour s'essayer en secret et prendre leur clan avant de s'aventurer en pleine rue, Barnabé était assis dans son cachot, s'étonnant du silence et attendant en vain le bruit et les clameurs qui avaient troublé les nuits précédentes. À côté de lui était assise, la main dans la sienne, une compagne dont la présence mettait son âme en paix. Elle était pâle, bien changée, accablée de chagrin, et elle avait le cœur bien gros, mais elle était pour lui toujours la même. « Ma mère, dit-il après un long silence, combien de temps encore, combien de jours et de nuits vont-ils me retenir ici ? Pas beaucoup, mon enfant, pas beaucoup, j'espère. Vous espérez, c'est bon. » Mais ce n'est pas avec des espérances que vous ferez tomber mes chaînes. Moi aussi, j'espère, mais cela leur est bien égal. Grippe, espère. Mais qui est-ce qui se soucie de grippe ? Le corbeau poussa un petit cri triste et mélancolique.
« Personne !»
dit-il aussi clairement que peut parler un corbeau. « Qui est-ce qui se soucie de grippe ? Excepté vous et moi, » dit Barnabé, passant la main sur les plumes ébouriffées de l'oiseau. « Il ne parle jamais ici. » Il ne dit pas un mot en prison. Il est là, se morfondre toute la journée, dans son petit coin noir, tantôt faisant un somme, tantôt regardant le jour qui se glisse à travers les barreaux, et qui brille dans son œil, perçant comme une étincelle de ces grands feux qui viendraient à tomber dans la chambre et qui brûleraient encore. Mais qui est-ce qui se soucie de grippe ? Le corbeau croissa encore.
« Personne !»
« Et à propos, » dit Barnabé, retirant sa main de l'oiseau pour la mettre sur le bras de sa mère en la regardant fixement en face, « s'il me tue, car c'est bien possible, j'ai entendu dire qu'il me tuerait, que deviendra Grippe quand ils m'auront fait mourir ?» Le son du mot ou le courant de ses propres pensées suggéra à l'oiseau sa vieille sentence.
« Oh les cœurs, n'aie pas peur !»
Seulement, il s'arrêta au beau milieu, tira un bouchon mélancolique, et finit par un croissement languissant, comme s'il ne se sentait pas le courage d'aller jusqu'au bout de sa phrase, quoiqu'elle ne fût pas bien longue. « Est-ce qu'ils lui ôteront la vie comme à moi ?» dit Barnabé. « Je le voudrais bien. Si lui et moi et vous, nous mourions tous ensemble, il ne resterait personne pour en avoir du chagrin et de la peine.
mais ils feront ce qu'ils voudront. Je ne les crains pas, mère. Ils ne vous feront pas de mal, dit-elle d'une voix presque étouffée par ses larmes. Ils ne voudront pas vous faire de mal quand ils sauront tout. Je suis sûr qu'ils ne vous en feront pas. Oh, n'en soyez pas trop sûr, cria Barnabé, qui montrait un étrange plaisir à croire qu'elle se trompait, mais que lui, il avait trop de sagacité pour tomber dans la même erreur. Ils m'ont désigné mère dès le commencement. Je le leur ai entendu dire entre eux quand ils m'ont amené ici la nuit dernière. Et je les crois. Ne pleurez pas pour ça, mère. Ils disaient que j'étais hardi et je leur ferai voir jusqu'au bout qu'ils ne se trompent pas. On peut me croire imbécile, mais cela ne m'empêchera pas de mourir aussi bien qu'un autre. Je n'ai pas fait de mal, n'est-ce pas ? Ajouta-t-il vivement. Pas devant Dieu, répondit-elle. Eh bien, alors, dit Barnabé, qu'ils me fassent tout ce qu'ils voudront. Vous m'avez dit un jour vous-même, un jour que je vous demandais ce que c'était que la mort, que c'était quelque chose qui n'était pas à craindre quand on n'avait pas fait de mal. Mère, je suis sûr que vous pensiez que j'avais oublié cela. Elle était navrée de voir ce joyeux éclat de rire et le ton enjoué avec lequel il lui disait ces mots. Elle le serra contre son cœur et le supplia de lui parler tout bas et de se tenir tranquille, parce qu'il commençait à faire nuit, qu'ils n'avaient plus que peu de temps à rester ensemble et qu'elle allait être obligée de le quitter. « Vous reviendrez demain, » dit Barnabé. « Oui, et tous les jours, et nous ne nous séparerons plus. » Il répliqua avec joie que c'était bien, que c'était tout ce qu'il désirait et qu'il était sûr d'avance de sa réponse. Puis il lui demanda où elle était restée depuis si longtemps et pourquoi elle n'était pas venue le voir pendant qu'il était un grand soldat. Et alors il se mit à lui détailler tous les plans qu'il avait formés pour qu'il puisse devenir riche et vivre dans l'opulence. Cependant, il eut quelques soupçons qu'elle avait du chagrin et que c'était lui qui en était la cause. Il essaya de la consoler, de la distraire, en lui parlant de la vie qu'ils menaient autrefois ensemble, de ses amusements et de la liberté dont ils jouissaient alors. Il ne se doutait pas que chacune de ses paroles redoublait la douleur de sa mère et qu'elle répandait des larmes de plus en plus amères à chaque souvenir qu'il ravivait de leur tranquillité perdue. « Mère, » dit Barnabé, quand ils entendirent approcher l'homme qui venait fermer les cellules pour la nuit, « tout à l'heure, quand je vous ai parlé de mon père, vous m'avez crié « chut » et vous avez détourné la tête. Pourquoi donc ? Dites-moi donc pourquoi en deux mots ? Vous l'aviez cru mort ? Vous n'êtes pas fâché qu'il vive et qu'il soit revenu nous voir ? Où est-il ? Serait-il ici ? Ne demandez à personne où il est. Ne parlez de lui à qui que ce soit, » répondit-elle. « Pourquoi pas ? Est-ce que parce que c'est un homme sévère et qui a la parole rude ? Car enfin, je ne l'aime pas et je ne tiens pas à me trouver seul avec lui. Mais pourquoi ne pas parler de lui ? Parce que je suis fâché qu'il vive encore, fâché qu'il soit revenu nous voir, fâché que vous et lui, vous vous soyez trouvés ensemble. Parce que, cher Barnabé, j'ai fait ce que j'ai pu toute ma vie pour vous tenir séparés. Séparés ? Un fils et un père ? Pourquoi ? « Il a, lui murmura-t-elle à l'oreille, il a versé le sang. Le temps est venu de vous faire cette révélation. Il a versé le sang d'un homme qu'il aimait bien, qui avait placé en lui sa confiance, qui ne lui avait jamais rien dit ni rien fait de mal. » Barnabé recula d'horreur et, jetant un coup d'œil rapide sur la tache de son poignet, la cacha en frissonnant sous sa veste. « Mais, ajouta-t-elle avec précipitation, en entendant la clé tourner dans la serrure, « quoique nous devions le fuir, ce n'en est pas moins votre père, mon cher enfant, et moi je n'en suis pas moins sa malheureuse femme. On en veut à sa vie et il la perdra. Il ne faut pas que nous y soyons pour quelque chose. Bien au contraire, si nous pouvions l'amener à se repentir, notre devoir serait de l'aimer encore. N'ayez pas peur de le connaître, si ce n'est comme un homme qui s'est sauvé de la prison, et si on vous fait des questions sur son compte, ne répondez pas. Que Dieu veille sur vous toute cette nuit, cher enfant. » Que Dieu soit avec vous. » Elle s'arracha de ses bras et quelques secondes après, Barnabé fut tout seul. Il resta longtemps comme enraciné là, la figure cachée dans ses mains, puis il se jeta en sanglotant sur son triste lit. Mais la lune vint tout doucement dans sa gloire modeste et les étoiles se montrèrent à travers le petit espace de la fenêtre grillée. Comme, à travers l'étroite brèche d'une bonne action dans une sombre vie de crime, la face du ciel rayonne pleine d'éclat et de miséricorde. Il leva la tête, regarda en l'air ce ciel tranquille qui avait l'air de sourire à la terre affligée, comme si la nuit, plus compatissante que le jour, abaissait des regards de pitié sur les souffrances et les fautes des hommes, et qu'elle voulut insinuer sa paix au fond du cœur de Barnabé. Un pauvre idiot comme lui, emprisonné dans son étroite cellule, se sentait élevé aussi près de Dieu, en contemplant cette clarté si douce que l'homme le plus libre et le plus heureux de toute cette vaste cité. Et dans sa prière, qu'il ne se rappelait pas bien, dans le bout d'hymne, souvenir de son enfance, qu'il se chantonnait pour se bercer avant de s'endormir, il y avait un souffle aussi pur pour monter vers le ciel que dans toutes les homélies du monde et dans l'écho des voûtes des plus vieilles cathédrales. Sa mère, en traversant une cour pour sortir, vit à travers une porte grillée qui donnait sur une autre cour son mari, marchant autour de l'enceinte, les mains croisées sur sa poitrine et la tête penchée. Elle demanda à l'homme qui la conduisait si elle ne pourrait pas dire un mot au prisonnier. Il consentit, mais en lui recommandant de se dépêcher, parce qu'il allait fermer pour la nuit et il n'avait plus qu'une ou deux minutes à lui. En même temps, il ouvrit la porte et lui dit d'entrer. La porte, en tournant, grinça bien fort sur ses gonds, mais lui, il était sourd au bruit et continuait sa promenade circulaire dans la petite cour sans lever la tête ni changer d'attitude le moins du monde. Elle lui parla, mais sa voix était si faible qu'elle ne pouvait se faire entendre. Enfin, elle alla au-devant de ses pas, et quand il vint, elle étendit la main et le toucha. Il tressaillit et recula d'un pas, tremblant des pieds à la tête, mais en voyant qui c'était, il lui demanda ce qu'elle venait faire là. Sans attendre sa réponse, « Voyons, dit-il, venez-vous me rendre la vie ou me l'ôter, m'assassiner ou me sauver ?»« Mon fils, notre fils, répondit-elle, est dans cette prison. » « Qu'est-ce que ça me fait ? » cria-t-il en frappant du pied avec impatience le pavé de la cour. « Je sais bien cela. Il ne peut pas plus m'aider que je ne puis l'aider. Si vous êtes venu pour me parler de lui, vous pouvez vous en aller. » En même temps, il reprit sa promenade et se mit à faire son tour dans la cour comme auparavant, d'un pas précipité. Quand il la retrouva où il l'avait laissée, il s'arrêta pour lui dire « Venez-vous me rendre la vie ou me l'ôter ? Vous repentez-vous ? » « Oh, c'est à vous qu'il faut demander ça, répondit-elle. Voulez-vous vous repentir, pendant qu'il en est temps encore ? Quant à vous sauver, croyez bien que je n'en aurai pas le pouvoir, quand j'en aurai le courage. » « Dites que c'est la volonté qui vous manque, répondit-il avec un juron, en cherchant à se dégager d'elle et à passer outre. « Dites que vous ne le voulez pas. » « Écoutez-moi un instant seulement, répliqua-t-elle. Rien qu'un instant. » Je ne fais que de relever d'une maladie dont je croyais que je ne relèverais jamais. Les meilleurs d'entre nous, dans des moments pareils, pensent aux bonnes intentions qu'ils n'ont pas réalisées, aux devoirs qu'ils ont laissés inachevés. Si j'ai jamais, depuis cette fatale nuit, manqué à prier Dieu pour vous envoyer le repentir avant votre mort, si j'ai manqué de vous en suggérer la pensée, même au moment où l'horreur de votre crime était encore toute fraîche, si la dernière fois que je vous ai vue, tout entière à la crainte qui venait de m'accabler, j'ai oublié de tomber à deux genoux pour vous adjurer de la façon la plus solennelle, au nom de celui que vous avez envoyé au ciel pour y porter témoignage contre vous, de vous préparer à la punition qui ne pouvait manquer de vous atteindre et qui s'approche insensiblement en ce moment même. Je m'humilie devant vous et, dans l'agonie de mon rôle de suppliante, je vous conjure de me laisser expier ma faute. »
Qu'est-ce que tout ce jargon veut dire ? Répondit-il rudement. Parlez donc de manière que je puisse vous comprendre.
Je vais le faire, répliqua-t-elle. C'est tout ce que je désire. Accordez-moi encore un moment de patience. La main de celui qui a maudit l'assassin s'est appesantie sur nous, vous n'en pouvez douter. Notre fils, notre innocent enfant sur lequel est tombée sa colère avant même qu'il vînt au monde, est ici en danger de perdre la vie. Il y est, conduit par votre faute, oui, Dieu le sait, par votre unique faute. Car si la faiblesse de son intelligence l'a entraîné dans ses égarements, n'est-ce pas la terrible conséquence de votre crime ?
Et vous venez pour m'ennuyer de vos reproches et de vos crieries de femme,
marmotta-t-il entre ses dents, en essayant encore de passer. Non, je viens pour autre chose, qu'il faut que vous entendiez. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain. Si ce n'est pas demain, ce sera un autre jour, mais il faut que vous l'entendiez. « Mon mari, il n'y a point d'espoir pour vous de vous sauver de là. C'est impossible. »«
Et c'est vous qui venez me dire ça. »
En même temps, il leva sa main chargée de fer et l'en menaça.
« Ah, c'est vous ? » ?»« Oui,
dit-elle avec une vivacité inexprimable. « C'est moi. Mais pourquoi ?»« Sans doute pour me tranquilliser dans cette prison, pour me faire passer agréablement le temps d'ici jusqu'à ma mort. Pour mon bien, oui, pour mon bien, sans aucun doute. » dit-il en grinçant des dents et en lui adressant un sourire avec sa face livide. « Non, ce n'est pas pour vous accabler de reproches, répliqua-t-elle. Non, ce n'est pas pour aggraver les misères et les tortures de votre situation. Non, ce n'est pas pour vous dire une seule parole amère. C'est au contraire pour vous rendre l'espérance et la paix. Mon mari, mon cher mari, avouez seulement ce crime abominable. Implorez seulement le pardon du ciel et de ceux que vous avez offensés sur la terre. Écartez seulement ces vaines pensées qui vous troublent et qui ne se réaliseront jamais pour ne compter que sur votre repentir et votre sincérité. Et je vous promets, au nom suprême du Créateur dont vous avez détruit l'image, qu'il vous donnera aide et consolation. Et moi, cria-t-elle en joignant les mains et en levant les yeux au ciel, je jure devant Dieu, devant lui qui connaît mon cœur et qui peut y lire la vérité de mes paroles, je vous promets à partir de ce moment-là de vous aimer tendrement comme autrefois, de veiller sur vous nuit et jour durant le court intervalle qui nous reste, de vous prodiguer les témoignages de mes plus fidèles affections comme je le dois, de joindre mes prières aux vôtres pour que Dieu suspende le jugement qui menace votre tête, pour qu'il épargne notre fils et lui permette de bénir ici son saint nom, de son mieux le pauvre enfant, à l'air libre et à la clarté du jour. » Il recula et fixa ses yeux sur elle pendant qu'elle lui adressait ses prières ardentes, comme s'il était un moment frappé de respect pour elle et qu'il ne sut que faire. Mais la crainte et la colère prirent bientôt le dessus et il la repoussa avec mépris. « Allez-vous-en » cria-t-il. « Laissez-moi. Vous complotez contre moi, n'est-ce pas? Vous voulez me faire parler pour aller dire que je suis bien ce qu'on soupçonne. Malédiction sur vous et votre enfant. » « Hélas, elle est déjà tombée sur lui, la malédiction » répliqua-t-elle en se tordant les mains. « Qu'elle y tombe plus lourdement encore, qu'elle tombe sur lui et sur vous tous. Je vous déteste tous les deux, je n'ai plus rien à perdre. La seule consolation qui puisse me rester et que je me souhaite, c'est de savoir, avant de mourir, que la malédiction vous atteint. À présent, partez. » Elle allait encore lui faire de douces instances, même après cet éclat de fureur, mais il menaça de la frapper de sa chaîne. « Je vous le répète, partez. Je vous le répète pour la dernière fois. Le gibet me tient dans ses griffes, et c'est un noir fantôme qui peut me porter encore à d'autres excès. Allez-vous-en, je maudis l'heure où je suis né, l'homme que j'ai tué et toutes les créatures vivantes de ce monde. » Dans un paroxysme de rage, de terreur, de crainte de la mort, il la repoussa pour se précipiter dans les ténèbres de sa cellule, où il se jeta pantelant sur le carreau qu'il grattait de ses mains enchaînées. Le geôlier revint fermer la porte du cachot et emmena ensuite la malheureuse femme. Dans cette nuit de juin chaude et embaumée, il y avait aux portes de la ville des visages heureux et des cœurs gais et légers qui savouraient doublement la douceur d'un sommeil depuis plusieurs jours inconnu au milieu des horreurs qui venaient d'avoir lieu. Cette nuit-là, chacun chez soi se réjouissait en famille. On se félicitait les uns les autres d'avoir échappé au danger commun. Ceux qui avaient été désignés pour victimes par l'émeute s'aventuraient à sortir dans les rues. Ceux qui avaient été pillés allaient gagner quelques bons refuges. Même le pusillanime Lord Maire, qui avait été cité ce soir-là devant le conseil privé pour donner des explications sur sa conduite, revint content, déclarant à tous ses amis qu'il avait été bien heureux d'en être quitte pour une réprimande, et leur répétant avec la plus grande satisfaction sa mémorable défense devant le conseil, qu'il avait montré dans les troubles une telle témérité de courage qu'il avait bien cru la payer de sa vie. Cette nuit-là aussi, quelques agents dispersés de l'émeute furent poursuivis jusque dans leur cachette et arrêtés. Dans les hôpitaux ou sous les amas de ruines qu'ils avaient faites, dans les fossés, dans les champs, on trouva de ces misérables enterrés sans linceul. Plus heureux que ceux qui, pour avoir pris une part active au désordre, dans des prisons provisoires, reposaient en ce moment sur la paille, leur tête promise au bourreau. À la tour aussi, dans une chambre lugubre dont les murs épais interdisaient l'accès au moindre bourdonnement de la vie, et entretenait un silence dont les inscriptions laissées par d'anciens prisonniers sur ces témoins muets ne faisaient que redoubler l'horreur, gisait sur sa couche un homme tourmenté de remords pour chaque cruauté commise par chaque révolté, reconnaissant à présent que leur crime était son crime et que c'était lui qui avait mis leur vie en péril. Ne trouvant au milieu de ses réflexions qu'une triste consolation dans son fanatisme ou dans sa vocation imaginaire. C'était le malheureux auteur de tout le mal, Lord George Gordon. On l'avait arrêté le soir même. « Si vous êtes sûr que c'est moi que vous voulez, » dit-il à l'officier qui l'attendait à la porte de chez lui avec un mandat d'amener sous la prévention de haute trahison, « je suis prêt à vous accompagner. » Et en effet, il le suivit sans résistance. On commença par le conduire devant le conseil privé, puis à la caserne des Horse Guards, puis on l'emmena par le pont de Westminster pour éviter l'embarras des rues jusqu'à la tour, sous l'escorte la plus forte qu'on eût encore vue chargée d'y conduire un prisonnier seul. De tous ces 40 000 hommes, il ne lui en restait pas un pour lui tenir compagnie, tant ami que protégé, client et serviteur. Il n'avait personne. Son tartuffe de secrétaire l'avait trahi, et l'homme qui s'était laissé dans sa faiblesse, poussé et compromettre par tant d'intrigants uniquement occupés de leurs intérêts personnels, se trouvait à présent seul et abandonné.
Chapitre 74. Monsieur Dennis, ayant été fait prisonnier à une heure avancée le même soir, fut emmené pour la nuit seulement au violon voisin, et le lendemain, samedi, on le fit comparaître devant un juge de paix. Comme les charges qui s'élevaient contre lui étaient nombreuses et importantes, qu'en particulier il fut prouvé par le témoignage de Gabriel Varden qu'il avait manifesté bonne envie de lui ôter la vie, il fut renvoyé devant les assises. De plus, il eut l'honneur distingué de se voir considéré comme un chef de révolté et de recevoir de la bouche même du magistrat la flatteuse assurance qu'il était dans une position d'un danger imminent et qu'il ferait bien de s'attendre à tout. Dire que la modestie de M. Dennis ne fut pas un peu émue par ces honneurs insignes ou qu'il fut bien préparé à une réception si obligeante, ce serait lui prêter un plus grand fond de philosophie stoïque qu'il n'en posséda jamais. À dire vrai, le stoïcisme de ce gentleman était de ceux, combien en voit-on comme cela, qui mettent un homme en état de supporter avec un courage exemplaire les afflictions de ses amis, mais qui par une espèce de compensation le rendent, en ce qui le concerne, très sensible à ses maux et d'un égoïsme très susceptible. On peut donc, sans calomnier ce fonctionnaire intéressant, déclarer sans réserve et sans déguisement qu'il commença par se montrer très alarmé tout d'abord et qu'il manifesta des émotions qui ne faisaient pas honneur à son héroïsme jusqu'à ce qu'il eût appelé à son aide ses facultés ratiocinatives qui lui firent entrevoir une perspective moins désespérée. À mesure que M. Dennis exerçait les qualités intellectuelles dont la nature l'avait doué à passer en revue ses chances les plus favorables de se tirer d'affaire bellement et sans grand désagrément personnel, il sentait renaître ses esprits et augmenter sa confiance. Quand il se rappelait la haute estime dans laquelle était tenu son ministère et le besoin constant qu'on avait de ses services, quand il se considérait lui-même, dont le code pénal avait fait une espèce de remède universel applicable aussi bien aux femmes qu'aux hommes, aux vieillards qu'aux enfants, aux gens de tout âge, de toute variété de criminalité, quand il songeait à la haute faveur dont il jouissait par titre officiel près de la couronne et des deux chambres du Parlement, de la monnaie, de la Banque d'Angleterre et des juges du territoire, quand il repassait dans son esprit tous les ministres successifs dont il était resté toujours la panacée favorite, quand il réfléchissait que c'était à lui que l'Angleterre devait de rester isolée dans la gloire de la pendaison parmi les nations civilisées de la terre, quand il se représentait tous ses titres et qu'il les pesait dans son esprit, il n'avait pas l'ombre d'un doute qu'il y allait de l'honneur de la nation reconnaissante, de l'acquitter des conséquences de ses dernières escapades et qu'elle ne pouvait manquer de lui rendre son ancienne place dans le bienheureux système social. Il en était donc resté, comme on dit, sur sa bonne bouche quand il prit place au milieu de l'escorte qui l'attendait et il se rendit à la prison avec une indifférence héroïque. Et, arrivant à Newgate, où on avait réparé à la hâte les ruines de quelques cachots pour y tenir en toute sûreté les révoltés, il reçut un accueil chaleureux des porte-clés, charmé de voir un cas extraordinaire, un cas intéressant, qui rompait agréablement la monotonie de leur service uniforme. Aussi, sous l'empire de cette aimable surprise, lui mit-on les fers avec un soin tout particulier avant de le coffrer dans l'intérieur de la prison. « Camarade, dit le bourreau, pendant que sous la conduite d'un officier de la geôle, il traversait dans cet attirail nouveau pour lui tous les corridors qu'il connaissait si bien, est-ce que je vais rester longtemps avec quelqu'un ? Si vous nous aviez laissé plus de cellules debout, on vous en aurait donné une pour vous tout seul, lui répondit-on. Mais pour le moment, la place manque, et nous sommes obligés de vous donner de la compagnie. À la bonne heure, répliqua Denis, je n'ai pas de répugnance pour être en compagnie, camarade. Au contraire, j'aime assez la société. J'étais né pour la société, vrai. Quel dommage, n'est-ce pas ? Dit son conducteur. Mais non, répondit Denis, je ne trouve pas. « Pourquoi donc serait-ce dommage, camarade ?»« Oh, dame, je ne sais pas, dit l'autre négligemment. C'est que, comme vous dites que vous étiez né pour la société et qu'on va vous en priver dans votre fleur, vous comprenez ?»« Dites-moi donc, reprit l'autre vivement, de quoi diable me parlez-vous là ? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qu'on va priver dans leur fleur ?»« Oh, personne précisément. Je croyais que c'était peut-être vous, dit le geôlier. » Monsieur Denis s'essuya la face qui était devenue tout à coup rouge comme le feu. « Vous avez toujours aimé dire des farces, » dit-il à son conducteur d'une voix tremblante, et il le suivit en silence jusqu'à ce qu'il se fût arrêté devant la porte. « C'est là ma résidence, n'est-ce pas ? » demanda-t-il d'un air facétieux. « Oui, voilà la boutique, monsieur, » répliqua l'autre. Denis se disposait à y entrer d'assez mauvaise grâce, quand, tout à coup, il s'arrêta et recula, tout saisi. « Eh bien, dit le geôlier, comme vous voilà ému. »« Hein, dit Denis, à voix basse et fort alarmée, il y a de quoi fermer cette porte. »« C'est ce que je vais faire quand vous serez entré. »« Mais je n'entrerai pas du tout. Je ne veux pas qu'on m'enferme avec cet homme-là. Est-ce que vous avez envie de me faire étrangler, camarade ?» Le geôlier n'avait pas l'air d'avoir la moindre envie pour ou contre, mais lui faisant observer en deux mots qu'il avait sa consigne et qu'il voulait l'exécuter, il ferma la porte par-dessus lui, tourna la clé et se retira. Denis se tenait, tout tremblant, le dos contre la porte, et levant le bras par un mouvement involontaire pour se mettre en défense, les yeux fixés sur un homme, le seul locataire pour le moment du cachot, qui était étendu tout son long sur un banc de pierre et qui venait de suspendre sa respiration comme s'il était en train de se réveiller. Cependant, il se roula sur le côté, laissa pendre son bras négligemment, poussa un long soupir et, murmurant quelques mots inintelligibles, retomba aussitôt dans le sommeil. Légèrement rassuré par ce répit, le bourreau détourna un moment les yeux de son compagnon endormi et jeta un coup d'œil autour du cachot pour voir s'il ne trouverait pas quelque endroit favorable ou quelque arme propice pour se défendre. Il n'y avait pas d'autre meuble qu'une mauvaise table qu'on ne pouvait déranger sans faire du bruit et une lourde chaise. Il se glissa sur la pointe du pied vers ce dernier article de mobilier, l'emporta dans le coin le plus reculé et, le mettant devant lui pour s'en faire un rempart, il surveilla de là les mouvements de l'ennemi avec la plus grande vigilance et une extrême défiance. L'homme qui dormait là, c'était Hugues, et naturellement, Denis devait se trouver dans un état d'attente assez pénible et souhaiter, à part lui, que l'autre ne se réveillât jamais. Fatigué de rester debout, il s'accroupit dans son coin au bout de quelque temps et finit par s'asseoir sur le pavé glacé. Cependant, quoique la respiration de Hugues annonçât toujours qu'il dormait d'un bon somme, il ne pouvait se résoudre à le quitter des yeux un instant. Il en avait si grand peur, il redoutait tellement un assaut subit de sa part que, non content d'observer ses yeux fermés au travers des barreaux de la chaise, il se levait en tapinois de temps en temps sur ses pieds pour le regarder,
le cou tendu, et s'assurer qu'il était réellement bien endormi et qu'il n'allait pas profiter d'un moment de surprise pour s'élancer sur lui. Hugues dormit si longtemps et si profondément que M. Dennis commença à croire qu'il ne se réveillerait pas avant la visite du porte-clés. Déjà, il se félicitait de cette supposition flatteuse et bénissait son étoile avec ferveur quand il se manifesta deux ou trois symptômes assez peu rassurants, comme par exemple un nouveau mouvement du bras, un nouveau soupir, une agitation incessante de la tête, puis, juste au moment où le dormeur allait tomber lourdement à bas de ce lit étroit, les yeux de Hugues s'ouvrirent. Le hasard voulut que sa figure se trouvât précisément tournée du côté de son visiteur inattendu. Il le regarda bien une douzaine de secondes tranquillement, sans avoir l'air d'être surpris ni de le reconnaître, puis tout à coup, il fit un bond et prononça son nom avec un gros juron. « N'approchez pas, camarade, n'approchez pas !» cria Dennis, se cachant derrière la chaise. « Ne me touchez pas, je suis prisonnier comme vous, je n'ai pas la liberté de mes membres, je ne suis qu'un pauvre vieux, ne me faites pas de mal !» Il prononça les derniers mots d'un air si câlin et d'un ton si piteux que Hugues, qui avait saisi la chaise et la tenait en l'air pour lui en asséner un coup, se retint et lui dit de se relever. « Oui, certainement, camarade, je vais me relever !» cria Dennis, prompt à l'apaiser par tous les moyens en son pouvoir. « Je ne demande pas mieux que de faire tout ce qui peut vous être agréable, bien sûr. Là, me voici relevé. Qu'est-ce que je puis faire pour vous? Vous n'avez qu'un mot à dire et je le ferai. »« Ce que vous pouvez faire pour moi !» cria Hugues en l'empoignant par le collet avec ses deux mains et le secouant aussi rudement que s'il voulait lui couper la respiration. « Et qu'est-ce que vous avez fait pour moi ?»« J'ai fait de mon mieux ce que je pouvais faire de mieux, » répondit le bourreau. Hugues, sans répliquer, le secoua dans ses serres vigoureuses, à lui faire branler les dents dans la mâchoire, le lança par terre et alla se rejeter lui-même sur son banc.
« Si ce n'était pas le plaisir que je ressens au moins de vous voir ici, » murmura-t-il entre ses dents, « je vous aurais écrasé la tête contre la muraille. Oh oui, et ça ne serait pas long !»
Il se passa quelque temps avant que Dennis eût retrouvé sa respiration pour pouvoir parler, mais sitôt qu'il put reprendre son langage humble et soumis, il n'y manqua pas.
« Oui, j'ai fait de mon mieux !» dit-il d'un ton caressant. « Savez-vous que j'avais là deux baïonnettes dans les reins et je ne sais pas combien de cartouches à mon service pour me forcer à aller où vous étiez et que si vous n'aviez pas été pris, vous auriez été tué à coups de fusil. Jugez un peu la belle figure que vous auriez faite, un beau jeune homme comme vous. »
« Je vais donc faire à présent plus belle figure, hein ?» demanda Hugues en relevant la tête avec une expression si terrible que l'autre n'osa pas lui répliquer pour le moment.
« Il n'y a pas de doute, » dit Dennis d'un ton doucereux après un instant de silence. « D'abord, il y a les chances du procès, et vous en avez mille pour vous. Nous pouvons nous en tirer les braies nettes. On a vu des choses plus extraordinaires que ça. Après cela, quand même ce ne serait pas et que les chances tourneraient contre nous, nous en serons quittes pour être exécutés une bonne fois. Et ça se fait, voyez-vous, avec tant de propreté, d'adresse et d'agrément, si le terme ne vous paraît pas trop fort, que vous ne pourriez jamais croire qu'on ait pu porter la chose à ce point de perfection. Tuer un de nos semblables à coups de fusil, poire !
Et cette idée seule révoltait tellement sa nature qu'il cracha sur le pavé du cachot. La chaleur qu'il montrait sur ce sujet pouvait passer pour du courage aux yeux de quelqu'un qui ne connaissait pas ses goûts et ses préférences artistiques. De plus, comme il se gardait bien de laisser percer ses espérances secrètes et qu'il avait l'air au contraire de se mettre sur le même pied que Hugues, ce vaurien fut plus sensible à ses considérations pour se laisser attendrir qu'il ne l'aurait été à tous les plus beaux raisonnements ou à la soumission la plus abjecte. Il reposa donc ses bras sur ses genoux et, se baissant en avant, il regarda Dennis par-dessous les mèches de ses cheveux avec une espèce de sourire sur les lèvres.
« Le fait est, camarade, dit le bourreau d'un ton de plus intime confiance, que vous vous étiez fourré là en assez mauvaise compagnie. Vous étiez avec un homme qu'on poursuivait bien plus que vous. C'était lui que je cherchais. Au reste, vous voyez ce que j'ai gagné à tout cela. Voici ici comme vous. Nous sommes dans la même barque. »
« Tenez, gredin, lui dit Hugues en fronçant les sourcils,
Je ne suis pas assez dupe pour ne pas savoir que vous comptiez y gagner quelque chose, sans quoi vous ne l'auriez pas fait. Mais c'est une affaire finie. Vous voilà ici, il ne sera bientôt pas plus question de vous que de moi. Et je ne tiens pas plus à vivre qu'à mourir, à mourir qu'à vivre. Ce m'est tout un. Alors, pourquoi me donnerais-je la peine de me venger de vous ? Boire, manger, dormir, tout le temps que j'ai à rester ici, je ne me soucie pas d'autre chose. S'il pouvait seulement pénétrer un peu plus de soleil dans ce maudit trou pour qu'on puisse y réchauffer, je voudrais y rester couché tout le long du jour sans me donner la peine de me lever ou de m'asseoir une fois. Voilà comme je me soucie de moi. Pourquoi donc me soucier de vous ?
Il finit cette harangue par un grognement qui ressemblait assez au bâillement d'une bête féroce, se remit tout son long sur le banc et ferma de nouveau les yeux. Après l'avoir regardé quelques moments en silence, Dennis, tout heureux de l'avoir trouvé si bénin, approcha de sa couche grossière la chaise sur laquelle il s'assit près de lui. Pourtant, il prit la précaution de ne pas se mettre à portée de son bras nerveux.
« Bien dit, camarade, on ne peut pas mieux dire, » se risqua-t-il à répondre. « Nous allons boire et manger tant que nous pourrons, dormir tant que nous pourrons, nous rendre la vie douce tant que nous pourrons. Et avec de l'argent, on a tout. Dépensons-le gaiement. »«
De l'argent, » dit Hugues en se retournant dans une position plus commode. « Où est-il ? » ?»«
Dame, ils m'ont pris le mien à la loge, » dit Monsieur Dennis, « mais ils ne traitent pas tout le monde de même. »
« Vous croyez ? Eh bien, ils m'ont pris le mien aussi. »«
Alors, je vais vous dire, camarade, il faut vous adresser à vos parents. »«
Mes parents, » dit Hugues, se relevant en sursaut et se soutenant sur ses mains. « Où sont-ils, mes parents ? Vous avez toujours bien de la famille. »
« dit Hugues en éclatant de rire et balançant son bras au-dessus de sa tête. « Ne va-t-il pas parler de parents ? Ne va-t-il pas parler de famille ? Un homme dont la mère a péri de la mort qui attend son fils et l'a laissé pauvre affamé, sans un visage de connaissance au monde. Venez donc me parler de parents et de famille.
« Camarade, » cria le bourreau, dont les traits éprouvèrent un changement subit, « vous ne voulez pas dire que... »«
Je veux dire, » reprit Hugues, qu'ils l'ont pendu à Tyburn. Ce qui était bon pour elle est assez bon pour moi. S'ils m'en fassent autant qu'ils voudront, le plus tôt sera le mieux. Pas un mot de plus, je vais dormir. Au contraire, j'ai besoin de vous parler. J'ai besoin d'avoir là-dessus plus de détails, dit Dennis, changeant de couleur. Ne vous avisez pas de ça, répondit Hugues en grognant. Vous ferez bien de tenir votre langue quand je vous dis que je vais dormir.
Dennis, s'étant risqué à dire quelques mots encore, malgré cet avertissement, son camarade furieux lui lança de toute sa force un coup de poing qui pourtant ne l'atteignit pas, puis se recoucha en murmurant une foule de jurons et d'imprécations et en se tournant la face contre la muraille. Après avoir essayé encore une ou deux fois, à ses risques et périls, malgré la terrible humeur de son compagnon, de le tirer tout doucement par la basque de son habit pour reprendre cette conversation dont M. Dennis, pour des raisons à lui connues, tenait tant à poursuivre le cours, il n'eut pas d'autre alternative que d'attendre aussi patiemment qu'il le put le bon plaisir du dormeur.